Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour une émission un peu spéciale, puisqu'il va y être beaucoup question d'une certaine Édith Piaf, la chanteuse bien sûr, mais aussi la chrétienne, la femme à la fois inébranlable, avec mon invité Pierre Fesquet, auteur du livre « Piaf, un cri vers Dieu » paru aux éditions Salvator. Bonjour Pierre Fesquet, tout d'abord un grand merci d'avoir accepté mon invitation à parler de votre livre sur les ondes de Radio Présence. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais rappeler que vous êtes comédien, dramaturge et essayiste. On vous applaudit il y a quelques années, il y a même 10 ans maintenant, à Toulouse, à la salle Tolosa de l'Institut catholique. C'était dans la boutique de l'Orfèvre, la pièce de théâtre écrite par le futur pape Jean-Paul II, puis ensuite aux côtés de votre ami Michael Lonsdale dans un concert-lecture consacré à Charles Péguy. Il y a eu également une autre lecture avec Brigitte Fosset, c'était consacré à Victor Hugo cette fois-ci. Avant d'évoquer avec vous votre livre et de parler d'Édith Piaf, une question que doivent se poser nos auditeurs. Comment est née votre passion pour la chanteuse et le personnage qu'elle était? On pourrait penser que c'est par le biais d'une transmission familiale, parce que vos parents écoutaient les chansons de Piaf à la maison. Il y a un peu de ça, bien sûr, mais il y a surtout une relation amicale et professionnelle qui liait votre père au compagnon de la chanson. Expliquez-nous pourquoi.
Tout à fait, Eric. Tout d'abord, bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Il se trouve que mon père avait une amitié de longue date avec certains compagnons de la chanson, notamment Hubert Lancelot, qui a été l'un des fondateurs du groupe, qui était son chef scout à Lyon. Et mon père, ensuite, a travaillé dans la publicité, dans l'affichage, et il s'est souvent occupé des tournées des compagnons quant aux affiches. Et puis, il a administré leur tournée d'adieu lorsque j'avais, moi, entre 13 et 15 ans. Et j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir approcher ce groupe qui est resté quand même 42 ans en haut de l'affiche, et de garder des liens, notamment avec Fred Mella, le soliste, et Marc Errant, qui a composé, enfin qui a plutôt harmonisé la chanson Les Trois Cloches. Voilà comment ça s'est fait. Et à l'âge de 8 ans, j'ai eu le bonheur de les voir pour la première fois sur scène. Il rendait hommage à Édith Piaf, et la voix d'Édith Piaf s'élevait au milieu d'eux. Elle était déjà partie quelques années auparavant. Et d'entendre la voix de Piaf se mêler à eux, ça m'a complètement bouleversé et passionné à la fois pour la chanteuse et pour le groupe.
Oui, alors c'est donc en discutant avec eux, donc vous avez cité Fred Mella, qui était oui. Le chanteur, le ténor magnifique, avec cette voix superbe, des compagnons de la chanson, avec Jean-Louis Jaubert, je pense aussi, sans doute.
Oui, qui passait de temps en temps voir mon père, et puis d'autres compagnons, Geoffre Achon, qui était le plus grand du groupe, René Mella, le frère de Fred Mella, avec qui j'ai gardé aussi un lien épistolaire, et puis ce qui est émouvant, c'est que Marc Errant, donc qui a harmonisé les Trois Cloches, nous a quittés en juillet dernier, et comme c'est un homme, il avait commencé chez les compagnons, mais ensuite fait toute sa carrière avec la chanteuse Yvette Giraud au Japon, il maniait très bien l'informatique, et il m'a envoyé des documents incroyables, qui sont d'ailleurs dans le livre, ou qui m'aident des fois dans les conférences, parce qu'il y a des choses inédites sur Édith Piaf. Il me parlait souvent de l'humour d'Édith Piaf, et du fait aussi qu'ils ont souvent répété avec elle dans le métro parisien, parce qu'elle aimait beaucoup retrouver l'atmosphère de la rue et du métro.
On va reparler évidemment de l'atmosphère de la rue, parce que c'est un peu comme ça que tout a commencé pour elle.
Exactement.
Est-ce que c'est en discutant avec les compagnons, avec certains d'entre eux en tout cas, que vous est venue l'envie de consacrer un livre à Piaf et au rapport que Piaf entretenait avec la foi et avec Dieu, ou est-ce que c'est venu un peu plus récemment?
Les deux me trottaient dans la tête. J'avais très envie d'écrire en effet un livre sur les compagnons, parce que voilà, leur image s'en va, ce qui est normal avec le temps. Et puis un jour, j'ai rencontré Michel Cole, qui travaillait aux éditions Salvator, et qui m'a dit « Oh, mais il faut creuser cette idée, écrire un livre sur les compagnons ». Et puis, je suis arrivé un soir à Lisieux, en 2022, et je me suis dit, mais l'année prochaine verra, en 2023, le 60e anniversaire de la mort de Piaf. Et je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut écrire. On évoquera bien sûr des compagnons, mais voilà, ce que je sais sur Piaf, je veux le coucher sur le papier. C'est comme ça qu'est né ce livre.
Et on en vient justement à ce livre et à ce qu'il nous raconte. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un, Georges Bernanos, le grand écrivain catholique, se demandait quel enfant il avait été. Et concernant Édith Piaf, cette question est cruciale, tellement l'enfance qu'elle a eue a été décisive pour la suite. Votre livre commence évidemment par là, puisqu'on y découvre la vie de la chanteuse de manière chronologique. Quelle a été l'enfance de Piaf et quel événement a tout changé pour elle, notamment pour la femme de foi qu'elle va devenir et qu'elle sera toute sa vie?
Oui, l'enfance de Piaf, c'est une naissance à quelques jours de Noël, le 19 décembre 1915. Elle est quasiment née sur un trottoir de Belleville qui a servi de berceau à l'enfant. Ça, c'est la légende qu'a entretenue Piaf. C'est-à-dire que sa mère est arrivée à l'hôpital Tenon sur le point d'accoucher entre deux gendarmes. Alors, Edith a souvent entretenu la légende de cette naissance dans la rue. Non, elle est née à l'hôpital Tenon. Bon, la mère chante dans les Beuglans. Hein. C'est une famille d'artistes. Le père, lui, est un trapéziste de rue. Donc, elle naît dans ce foyer original. Malheureusement, la mère s'occupant très mal de son enfant, la petite Edith est confiée d'abord à sa grand-mère maternelle, qui a, elle, des grands-parents berbères italiens, ce qui va donner ce métissage vocal plus tard à Edith. Et ensuite, en fait, Edith, très vite, est confiée à sa grand-mère paternelle, à Bernet. Bernet, c'est dans l'Eure. Et c'est une dame de tête, Louise Gassion, mais qui tient une maison, on va dire, un peu originale, là aussi, puisque c'est une maison close, et la petite Edith est élevée au milieu de ce qu'elle va appeler ses mamans, qui sont ces dames qui reçoivent des messieurs. Simplement, Edith souffre d'une kératite très avancée, c'est plus qu'une kératite, une inflammation de la cornée. La petite ne voit pas, et un jour où elle se rend avec sa grand-mère chez l'ophtalmologue, qui est très pessimiste, la grand-mère va prier avec sa petite Edith dans la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, et là, elle se dit, mais il y a 10 ans, la petite reine Fauquet a été guérie par une petite sœur qu'on appelle Thérèse, la sœur Thérèse, qui n'était pas du tout ni vénérable ni rien à l'époque. Et elle se dit, tiens, on va faire un pèlerinage sur la tombe de la petite Thérèse, et si la Thérèse, elle a guéri la Fauquet, la Thérèse, elle peut guérir ma petite Edith. Et ce qui fut dit fut fait, on a organisé depuis cette maison de Bernet un pèlerinage. Alors, comme disait le Monseigneur Lagoutte de Lisieux, disait ce jour-là, la maison était vraiment close. Ce petit monde est parti en pèlerinage à Lisieux, et on a pris de la terre, de la tombe de Thérèse, et on a posé cette terre dans un mouchoir, et on a appliqué ce mouchoir pendant plusieurs jours sur les yeux de l'enfant. Rien ne s'est passé, et un jour, des hurlements de joie, la petite Edith a enlevé son bandeau, et elle descend les marches du salon, et elle est guérie. Alors, il y a le miracle de la guérison, mais il y a, je pense aussi, le miracle de la rencontre entre Thérèse et Edith, puisque la petite Edith, elle a 4 ans et demi, va consacrer sa vie spirituelle à Thérèse de Lisieux. Voilà.
À la future Sainte Thérèse de Lisieux, comme vous l'avez rappelé, n'était pas encore canonisée à l'époque. Piaf n'a pas été épargné par la vie. Bon, son début de vie, on vient de le voir avec ce que vous nous avez raconté. Il va y avoir beaucoup d'autres événements tragiques dans son existence. Et le premier, en dehors de cette enfance qui a des aspects misérables, ça sera la perte de sa fille, son unique fille, son unique enfant, Marcel, qui meurt en bas âge alors qu'Edith n'avait même pas 20 ans.
Oui, tout à fait, Eric. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, parler de l'année de la canonisation de Thérèse de Lisieux, donc en 1925, Edith a 10 ans. Juste une petite anecdote pour dire l'amour qu'elle a pour la sainte, c'est qu'elle est en tournée dans les Alpes du Sud avec son père, et elle va faire une fugue dans le dos de son père, elle va quitter les Alpes du Sud pour rejoindre toute seule Lisieux, où elle veut voir la sainte dans sa chasse. Alors, elle s'arrête bien sûr à Bernet, et quand elle verra le lendemain de cette fugue, ou le surlendemain, Thérèse dans sa chasse, elle dira « Ce jour-là, j'ai compris ce qu'était la vraie gloire, ce qui m'a évité par la suite de ne pas croire en la mienne. » Et je trouve ça absolument incroyable, cette fugue de Saint-Jean-de-Maurienne à Lisieux, que Edith évoquait souvent. Voilà. Mais vous avez raison, il y a cet autre épisode terrible qu'on connaît peu. Edith a perdu, elle s'est retrouvée enceinte à l'âge de 17 ans et demi, et elle a accouché d'une petite Marcel, qu'elle perdra d'une méningite foudroyante. L'enfant est mort à 2 ans et demi. Edith, elle a raconté à ses proches qu'elle s'est raccrochée à Thérèse de Lisieux, qu'elle a même demandé à Thérèse où était Thérèse à ce moment-là. Et elle va faire une chose qu'elle a confiée à son biographe, qui a été racontée de façon très édulcorée dans sa biographie au bal de la chance, c'est que pour la seule fois de sa vie, pour offrir une sépulture chrétienne à sa petite, eh bien, Edith vendra son corps dans la rue. Et pour moi, elle a l'image d'une Marie-Madeleine errante pour pouvoir assurer cette sépulture chrétienne. Et d'ailleurs, elle demandera plus tard d'être enterrée avec sa petite Marcel.
On va parler des rencontres décisives qui ont jalonné sa vie, qui ont changé le cours de son existence et de sa carrière, ou plutôt le cours de sa carrière et donc le cours de son existence. J'aurais juste revenir à ce que vous évoquiez il y a quelques instants. Elle part à un moment donné sur les routes avec son père, donc artiste de cirque. Oui. Elle est encore toute jeune et c'est lui en fait qui va la faire chanter pour la première fois en public, et ça va être une révélation. Ça se passe dans des circonstances un peu incroyables aussi.
Oui, absolument. père et fils sur le trottoir, et à chaque fois, le père promettait des saltos, des mouvements extraordinaires, des dites qu'elle ne faisait jamais. Et un jour, il y a un spectateur qui a dit, mais moi, j'ai payé pour voir la petite faire son saut périlleux, je vais voir le saut périlleux. Alors le père s'est tourné vers Edith et dit, écoute, trouve quelque chose. Bah, écoutez, monsieur, ce soir, ma fille va chanter. Alors Edith n'avait jamais essayé le chant, et elle a confié à Hugues Vassal, son photographe, qu'elle a tout de suite pensé à un chant en l'honneur de Thérèse de Lisieux qu'elle avait appris à Bernay. Et en fait, elle a dit, ben non, en elle-même, je vais chanter la Marseillaise parce que c'est quand même plus fédérateur. Elle chante la Marseillaise, et là, sa voix bouleverse les gens qui sont là. Il y a une avalanche, une pluie de pièces de monnaie qui tombent, et ça va être comme ça tous les soirs. Jusqu'à l'âge de 15 ans, elle chantera aux côtés de son père, et un jour, à l'âge de 15-16 ans, elle prend son indépendance, elle quitte son père. Et il y aura une autre rencontre, cette fois-ci, avec le directeur d'un grand cabaret, mais je ne veux pas anticiper.
Oh ben, on va pas anticiper, parce qu'on va en parler tout de suite, ouais. Là, de ces rencontres qui vont changer vraiment le cours de sa carrière. Il y en a deux, il me semble, très importantes. Il y a celle de Louis Le Play, puis celle de Raymond Asso ensuite. On va parler d'abord de Louis Le Play, parce que c'est vraiment le premier Pygmalion qu'elle va avoir.
Oui, et là, c'est quasiment miraculeux. C'est un jour d'octobre 35. Edith dit à son amie Simone Berthaud, la fameuse momone qui sera son amie de rue, écoute, on va aller chanter dans les beaux quartiers. Et elles vont chanter à l'angle de l'avenue de la Grande Armée. Et là, non loin de l'étoile, mais il y a une bonne étoile qui veille sur Edith, c'est que depuis 10 minutes qu'elle chante, il y a un monsieur très bien apprêté qui l'écoute, qui a l'air très bon, et qui vient la voir en lui disant, mais ma petite, avec une voix pareille, c'est de la folie de chanter dans la rue, tu n'as pas de lieu où chanter. Elle lui dit, non monsieur, eh bien voilà, je suis Louis Le Play, directeur du cabaret Le Gernise, voici ma carte, je te propose d'auditionner lundi prochain. Bien sûr, le lundi suivant, Edith arrive avec une heure de retard parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et là, il y a cette chose extraordinaire, bon, il est ébloui par son audition, il lui dit, je t'engage, mais il faut te trouver un nom qui ressemble à un oiseau parce que tu m'as fait penser à un oiseau qui chantait dans la rue. Alors il cherche, la môme Moineau, non, il y a déjà une artiste qui s'appelle comme ça, il la regarde droit dans les yeux, tu t'appelleras la môme Piaf. Et Edith a souvent dit que Thérèse de Lisieux se comparait à un oiseau. Et la petite Thérèse disait, Jésus, moi aussi je me considère comme un faible petit oiseau qui voudrait voler vers le soleil d'amour. Et c'est extraordinaire parce que le soir de la première au Gernise, donc qui est le cabaret de Le Play, c'est un triomphe. Le Play lui dit, tu les auras comme ça tous les soirs. Et il y a Maurice Chevalier qui fait une prophétie en disant, elle en a dans le ventre la môme et ça va marcher.
Oui. Et il va même l'initier, Louis Le Play, qui était quelqu'un de lettré, à la lecture de la Bible, à Platon, à Pascal. On a du mal à l'imaginer, mais Édith Piaf, c'est aussi quelqu'un de cultivé et qui lisait des auteurs qui n'étaient pas faciles.
Oui, oui. Et d'ailleurs, toute sa vie, elle aura une quête mystique. Elle lit Platon et puis on verra plus tard que lorsqu'elle est amoureuse, quand elle a un compagnon, eh bien, elle va faire la prière devant lui, au pied de son lit, où elle lui offrira des livres chrétiens. On parlera de Cerdan et elle avait offert un livre de spiritualité qui a beaucoup marqué Cerdan. La seule chose qui est terrible dans cette histoire, c'est que le 6 avril 36, on téléphone chez Edith. Elle attendait un coup de fil de Le Play, elle ne reconnaît pas sa voix. Et on lui dit, venez vite au domicile de Monsieur Le Play. Il a été assassiné. Et Edith va être confrontée pendant plus d'un an aux doutes, aux suspicions, parce qu'on a pensé qu'elle fréquentait beaucoup Pigalle. Elle avait des liens avec certaines bandes de Pigalle et on a pensé que c'était les caïds qui connaissaient Piaf, qui avait commis ce crime. Et on peut voir sur Internet, dans les actualités de Gaumont, la môme Piaf pleurait en disant « Mais c'est pas moi qui ai tué Papa Le Play », parce qu'elle l'appelait « Mon Papa Le Play ». Et Edith a dit que ce n'était plus la rue que les gens venaient entendre dans son récital, c'était l'égout. Et là aussi, c'est un moment où Edith a dû porter la croix.
Un des nombreux drames de sa vie. L'autre rencontre, j'évoquais tout à l'heure le nom de Raymond Asso. Donc ça, oui. Ça va être vraiment son deuxième Pygmalion. Quelle rencontre alors qu'elle est en couple avec Paul Meurice à l'époque, l'acteur.
Oui, c'est ça. C'est assez extraordinaire parce qu'elle est complètement perdue. Louis Le Play n'est plus là pour veiller aux tournées parce qu'il organisait de grosses tournées à partir de son cabaret. Et elle rencontre Raymond Asso qui composera d'ailleurs pour Mouloudji le petit coquelicot. Raymond Asso est connu pour ça. C'est un homme d'une grande intelligence. C'est un ancien officier mais qui a un don de plume. C'est un poète extraordinaire. Et il va donner à Piaf une exigence de vie, une hygiène de vie. Il va lui trouver un répertoire. Il lui compose des chansons comme Mon Légionnaire, et surtout, il lui trouve aussi sa tenue de scène. Donc, on peut dire que la môme Piaf a été fabriquée par Le Play, mais Edith Piaf a été créée par Asso.
Alors, il y a une autre rencontre que je voulais évoquer avec vous, que tout de même, c'est celle avec Cocteau. C'est lui qui va la faire monter sur scène, non plus pour chanter, mais pour faire la comédienne. Il va même lui écrire une pièce, Le Bel Indifférent, qu'elle va jouer d'ailleurs avec Paul Meurice, son compagnon de l'époque.
Oui, la rencontre avec Cocteau, c'est assez incroyable. C'est Madame Raoul Breton, son mari était le producteur de Trenet, qui lui dit un jour, Edith, Jean Cocteau veut vous rencontrer. Edith est complètement prise de panique. Elle, qui commençait, comme vous disiez tout à l'heure, hein, elle lisait beaucoup, mais enfin, c'était le grand intellectuel de l'époque. Et quand il la rencontre, elle lui dit, je voudrais que vous m'écriviez une chanson. D'abord, ils vont se tutoyer très vite. Et puis, Cocteau lui dit, non, je sens en toi une tragédienne, je veux t'écrire une pièce de théâtre. Et la première chose qu'Edith va lui dire, ah ben oui, je veux jouer Jeanne d'Arc comme l'avait fait Thérèse de Lisieux au Carmel. Et il lui dit non, j'ai envie de décrire le couple que tu représentes devant moi, parce qu'à ce moment-là, elle est avec Paul Meurice, Piaf très exubérante, et Paul Meurice c'était plutôt un comédien taciturne, introverti.
Il était assez donc, british dans son maintien.
Exactement. Et alors, il va écrire un rôle muet, d'ailleurs qui sera très dur à tenir pour Paul Meurice, et l'histoire d'une femme jalouse qui tourne autour de son amant silencieux, et donc ça s'est appelé Le Bel Indifférent, qu'elle créera en 1940 au Théâtre des Bouffes Parisiens.
L'autre grande rencontre professionnelle, c'est bien sûr celle avec vos amis, les compagnons de la chanson. Ça se passe après la libération en 44-45. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ils ne s'appelaient pas à l'époque les compagnons de la chanson, c'était les compagnons de la musique. On va en parler avec vous. Je voudrais juste qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission. Et comment la faire autrement qu'en écoutant Edith Piaf et les compagnons de la chanson, cette chanson très 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 célèbre, Les Trois Cloches, dans une version qui avait été réenregistrée en 1960.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras. C'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre, à peine une flamme, un faible qui réclame, protection, tendresse, amour.
Village au fond de la vallée, des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, cœur en émoi, le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier, devant Dieu dans la vieille église, ce jour il se sent marié. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, toi, se laisse échant.
Une cloche sonne, sonne. Dans le vent.
bonne reine, elle redit au vivant, ne tremblez pas, cœur fidèle, il fera signe un jour, vous ferez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de
Église, Éric Dupri.
Vous venez donc d'écouter Les Trois Cloches, chanson créée en 1946, chanson de Jean Villard, celui qu'on surnommait Gilles, qui raconte la naissance, le mariage et la mort. Alors la rencontre avec les compagnons de la chanson, elle se fait dans quelles circonstances, Pierre Fesquet, et qu'est-ce qu'elle va changer dans la carrière de Piaf et dans la leur, bien sûr?
Alors, elle a lieu en 44. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'à ce moment-là, Édith Piaf forme un autre chanteur, qui est Yves Montand, qu'elle a rencontré au Moulin Rouge et qui va avoir la carrière internationale qu'on connaît. Et elle rencontre les compagnons au cours d'un gala de cheminots sur la scène de la Comédie Française. Il y a une alerte à la bombe, on doit évacuer la salle et donc du coup, les artistes se retrouvent entre eux et il y a Jean-Louis Barrault, il y a les compagnons, il y a Édith Piaf et chacun va faire son numéro devant les autres artistes. Et Édith Piaf est bouleversée par la voix du soliste Fred Mella. Elle trouve génial parce qu'il faisait beaucoup de chansons mimées, beaucoup de chansons visuelles. Et la rencontre a lieu comme ça, et elle leur dit, écoutez, il faut absolument qu'on arrive à tourner ensemble. Mais à ce moment-là, les compagnons de la musique sont dirigés par un maître de chapelle qui ne veut rien entendre, qui leur dit, vous êtes fait pour la chanson folklorique, vous n'allez pas partir avec la Môme Piaf. Donc il va y avoir une scission dans ce groupe, et les compagnons de la musique, certains compagnons de la musique, vont s'appeler donc les compagnons de la chanson, et ils vont partir avec Édith en tournée, et puis il y a cette tournée extraordinaire, et on voit la générosité de Piaf, elle les emmène aux États-Unis et elle impose à l'impresario, au producteur, ses 9 gars, et elle attendra, parce que on ne veut que la vedette, on veut Piaf seul. Alors eux n'y croient pas, ils avaient un air sceptique, alors devant cet air sceptique, Édith leur a dit, le jour où nous partirons aux États-Unis, vous recevrez, vous voulez pas croire en mes promesses, ben vous recevrez une paire de claques. Et Fred Mella m'a dit, sur le quai du Havre, chaque compagnon a reçu une paire de claques de la blanche main d'Édith.
Cette petite femme d'1m48 qui devait peser même pas 40 kilos, je pense. Alors, je voulais qu'on en vienne au titre que vous avez donné à ce livre. Piaf, oui. Un cri vers Dieu. C'est quoi ce cri? Est-ce que c'est un cri de colère? Est-ce que c'est un cri de douleur? Ou est-ce que c'est peut-être aussi un cri vers ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas assez?
Oui, je pense que c'est un cri universel. Alors, je vais vous livrer une petite anecdote. C'est que moi, je pensais appeler Piaf un cri d'amour vers Dieu. Et puis, c'est ma femme qui m'a dit, non, mais tu devrais mettre Piaf un cri vers Dieu. En fait, vous voyez, la femme est l'avenir de l'homme, l'intuition féminine. Bon, ça, c'était au début de mon travail d'écriture. Et je me suis aperçu, finalement, que Piaf avait lancé ce cri dans le monde entier, puisqu'elle va faire des tournées internationales. Et c'est très bizarre, parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu une interview de l'aumônier des artistes, la veille des obsèques d'Édith, qui n'auront pas lieu à l'église, puisque l'archevêché de Paris lui refusera une sépulture chrétienne. Et cet homme dit, l'aumônier des artistes dit, mais finalement, elle a lancé un cri, et ce cri nous a tous bouleversés. Donc j'ai souvent revu le mot cri après que j'ai choisi le titre.
Ouais, il me semble aussi que, c'est pour ça que je parlais d'un cri de colère, que Piaf avait une conscience aiguë de la misère et de l'injustice, tout simplement parce qu'elle les avait connues toutes les deux. Et je repensais à cette phrase de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui se voyait comme une pécheuse d'âme et qui disait « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ça, c'est une phrase qu'aurait pu dire Piaf et qu'elle aura faite sienne finalement parce que pendant toute sa vie terrestre, elle aura aidé beaucoup de gens et elle aura beaucoup œuvré autour d'elle. Et souvent de façon très discrète.
Ah oui, je parlais de Simone Berthaud. Donc Simone Berthaud, qui est son amie de rue, la fameuse momone qu'elle va connaître à l'âge de 14 ans. Simone Berthaud va la suivre toute sa vie, mais va la voler, va dire des choses fausses sur elle et ses dents. Il y aura même un procès. Et à chaque fois, Édith lui a pardonné. Et elle l'a reçu même sur son lit de malade quelques jours avant sa mort. Parfois, le pardon était douloureux à donner de la part d'Édith. Mais elle disait à son entourage, elle a connu la misère, elle a connu le manque d'amour, et je sais ce que c'est.
Oui. Alors, elle envoyait de l'argent aussi. Elle envoyait de l'argent à, je crois, une quinzaine de personnes. Elle envoyait de l'argent à des personnes âgées en maison de retraite, par exemple.
Ah oui, c'est incroyable. Moi, il se trouve que j'ai eu une de mes tantes religieuses qui s'est occupée du demi-frère père ou du frère. On ne sait pas bien si c'était son frère ou son demi-frère, un monsieur Gassion, qui lui disait, mais ma sœur, elle donnait à tout le monde. D'ailleurs, il était perclus de dettes quand son producteur, enfin son entourage, quand Edith est morte. Elle donnait à tout le monde. Elle donnait dans les maisons de retraite. Un jour à Strasbourg, arrivé triomphal de la vedette Piaf, il y a un SDF qui fend la foule. On le moleste un peu. Edith entre dans une grande colère. Lui dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et il lui dit, madame, je cherche un travail. Et elle lui dit, ben ça tombe bien, je suis reçue à la mairie. Et bras dessus, elle prend le pauvre R et elle demande à l'édile de la ville que cet homme ait un travail et travaille qu'il aura, puisque Edith aura ses nouvelles pendant plusieurs années. Donc c'est extraordinaire. Et puis moi, ce qui m'a beaucoup ému en faisant des recherches, c'est qu'elle va sauver un prêtre du suicide, l'abbé Martin. Donc j'ai fait quelques recherches, qui avait le titre honorifique de Monseigneur, qui était arrivé dans un grand état de dépression au moment où il va commettre un acte irréparable, entend la voix de Piaf. Alors est-ce qu'il y avait un transistor? Et descend de sa chaise et il entre en contact avec elle, parce que d'un coup, en entendant la voix de Piaf, il retrouve son sacerdoce, il retrouve sa joie de vivre, et il veillera d'ailleurs Piaf plusieurs jours avant les obsèques, et il sera là pour bénir la tombe. Donc ça, c'est extraordinaire, ce sont des petites fioritis fabuleuses.
Et il y a aussi cette anecdote là qui concerne notre région, puisqu'elle concerne l'église de Gluges. Gluges, c'est
absolument
près de Martel, c'est-à-dire dans le nord du Lot. On vous écoute sur Radio Présent dans le Lot, hein, sur nos fréquences de Cahors, de Gourdon, de Saint-Céré par exemple, et donc elle vient à Martel en 56, elle va à l'église, elle prie et elle rencontre le prêtre qui lui dit, regardez dans quel état est mon église, et elle va faire un don. Alors il faut voir ce que c'était cette somme à l'époque, de 120 000 francs pour pouvoir refaire les vitraux qui d'ailleurs vont être faits à Toulouse.
Et elle dira au père Delbos, mon père, vous ne le direz qu'après ma mort. Et le 11 octobre, quand la télévision, la radio ont annoncé la mort de Piaf, il y a eu une messe à Gluges où le père Delbos a dit, bien voilà, les vitraux, c'était Edith Piaf.
Et la place devant l'église s'appelle d'ailleurs la place
Edith
Piaf à Gluges.
Tout
Alors,
à fait.
Évidemment, on va parler de Marcel Cerdan, et pour revenir à la générosité d'Edith Piaf, après la mort de Cerdan, il faut savoir qu'elle deviendra amie avec la veuve de Cerdan et qu'elle s'occupera financièrement des orphelins de Marcel Cerdan. L'autre grande tragédie de sa vie, c'est la mort du boxeur dans un accident d'avion en 1949, alors qu'il va la rejoindre aux États-Unis, et c'est à sa demande qu'il prend l'avion. Lui, il avait peur de l'avion, il voulait y aller en bateau. Elle voulait tellement la voir auprès d'elle qu'elle lui demande non, viens, prends l'avion, il faut absolument que tu sois là rapidement. Il va aux États-Unis aussi pour sa revanche contre Jack LaMotta, le championnat du monde en 1949.
Ouais.
Il va mourir dans cet accident d'avion terrible.
Oui.
Une chose quand même qui les réunissait dans cette histoire d'amour qui malheureusement va être courte, c'est qu'ils avaient une grande foi commune, et notamment une grande foi commune pour la Vierge Marie.
Oui, exactement. Et alors, ce qu'il y a de très troublant aussi, c'est qu'elle rencontre Cerdan. Depuis plusieurs années, il a laissé tomber la pratique religieuse, il a laissé tomber sa foi, et c'est elle qui le fait revenir à la foi, qui l'emmène en pèlerinage à Lisieux, qui va lui offrir un livre de Cronin, un livre pieux, qu'il aura dans ses bagages d'ailleurs la nuit de sa mort, entre le 27 et le 28 octobre 49, au-dessus des Açores. On sait qu'il avait ce livre avec lui, et puis elle va lui coudre sur sa tenue, avant le championnat du monde de boxe en 48, le 21 septembre 48, une médaille de Thérèse de Lisieux sur sa culotte de sport. Donc il revient à la foi grâce à Edith. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, quand elle l'emmène en pèlerinage à Lisieux, elle fait une promesse à la petite Thérèse. Elle lui dit, je te promets de ne jamais casser leur couple. Si je dois m'en aller, je m'en irai. Elle ne voulait surtout pas qu'il divorce pour elle. Ouais.
Il y a aussi un épisode, on va parler un peu plus tard dans cette émission, de tous les faits, les événements mystiques autour de Piaf. Mais aussi, elle a eu la grâce de l'odeur de rose. Et d'ailleurs, c'est en lien avec Cerdan, puisque c'était au moment de la relation qu'elle avait avec lui.
Oui, exactement. Elle préparait ses bagages pour les États-Unis pour rejoindre Cerdan et le championnat du monde. Et elle était en train de prier. Et il y a une odeur de rose qui brusquement s'est échappée dans la pièce. Et il y avait Ginou Richer, sa secrétaire, et un des compagnons de la chanson, Guy Bourguignon. Et ils lui disent, mais Edith, tu as fait tomber ton parfum à la rose. Et là, elle est entrée dans une grande colère. Elle a dit, mais je prie, vente de mes créances, c'est la petite Thérèse qui me répond. Et ça, c'est une histoire vraie.
Oui. Et elle a vu dans ce signe le fait que Cerdan allait effectivement gagner le titre de champion du monde contre Tony Zale en 48, ce qui est arrivé.
Exactement.
Ce qui est arrivé, donc Cerdan malheureusement va mourir. Alors ça c'est vraiment terrible parce qu'on vient lui apprendre et elle va se culpabiliser tout le reste de sa vie parce que c'est elle qui lui a demandé de prendre l'avion.
Alors elle a cette phrase qu'elle répétera souvent, il est mort dans le ciel, donc il y est. Et cette phrase, elle s'est souvent accrochée à elle pour tenir.
Cerdan qui avait dit quelque chose qui me semble très juste concernant Piaf lorsqu'il l'avait vu chanter sur scène. Le chant d'Edith, c'est comme les poings d'un boxeur sur le ring. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous bouscule malgré vous lorsqu'on écoute Piaf.
Mais exactement. exactement, parce que Charles Dumont, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a composé après elle Non, je ne regrette rien, me disait, vous mettez un disque d'Edith et vous sentez et vous entendez qu'elle ne ment pas. Elle est sur un ring. Et d'ailleurs, elle disait que quand elle allait sur scène, je vais les pêcher comme Thérèse pêche les âmes. Donc il y a cette soif d'absolu dans son travail et qui ressemble aussi au travail du boxeur.
Alors donc, il y aura beaucoup d'autres rencontres et collaborations importantes dans sa vie. On peut citer bien sûr Charles Aznavour, Georges Moustaki, oui. Et puis bien sûr, celle avec Charles Dumont, ce qui nous ramène dans le Lot, parce qu'il est originaire de Cahors, Charles
bien
Dumont,
sûr.
Qui est toujours
oui.
de ce monde, il a 95 ans.
Oui.
Vous l'avez rencontré, il va lui composer
oui.
une trentaine de chansons en moins de 3 ans, entre 1960 et 1963, à la mort d'Edith Piaf. Donc il y a
oui.
L'hymne à l'amour, Non, je ne regrette rien, Mon Dieu, bien sûr.
Alors, on peut en parler parce que c'est un peu une prophétie de Piaf. Piaf a écrit l'hymne à l'amour juste avant la mort de Cerdan et c'est très troublant. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer, enfin il y a l'histoire du ciel et c'est sur une musique de Marguerite Monod.
La pianiste.
Voilà. Et ça, je voulais en parler, ça tombe bien parce que la chanson est prophétique. En fait, Charles Dumont va composer Non, je ne regrette rien et ce titre va vraiment ressusciter Piaf. Il m'a dit, je me suis fait blackbouler par Piaf 2 fois. Une première fois, il gagne le Grand Prix de la chanson sur Europe 1. Alors, il sonne chez elle, elle ouvre la porte et lui dit, madame, j'ai gagné le Grand Prix Edith Piaf. Elle lui dit, je suis pas un cheval de course. Bam, elle ferme la porte. Deuxième fois, il est présenté par une amie de Piaf. Il lui propose les flonflons du bal qu'elle prendra plus tard. Elle le regarde dans les yeux et elle lui dit, c'est tellement pour moi cette chanson que je la prendrai pas. Donc quand la troisième fois, Michel Vauquer lui dit, on va chez Piaf, voilà, il faut composer quelque chose, lui il veut pas y aller. Et la rencontre n'a pas failli se faire et pourtant cette rencontre va changer la vie et de Piaf, puisque elle y arrive plus, elle a plus de mémoire et cette chanson va la ressusciter. Donc Non, je ne regrette rien. Et puis après il y aura Mon Dieu. Et alors là, Mon Dieu, c'est aussi le flair de Piaf, parce que Piaf avait un flair dans les chansons. La chanson devait s'appeler Toulon, le Havre en vert, sur une musique absolument magnifique. Alors elle s'est mise en colère, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces paroles sur une musique magnifique? Trouvez-moi d'autres paroles. Et ils ont créé Mon Dieu.
Alors, effectivement, vous avez bien fait de rappeler le flair qu'elle avait, mais il faut rappeler aussi que Piaf elle-même a écrit les textes de plus de 80 chansons. On en parle très peu parce qu'on parle toujours de ses paroliers et de ses compositeurs.
Exactement.
Elle-même a beaucoup écrit.
Exactement, Eric. Et notamment, c'est elle qui compose La Vie en Rose, paroles et musique de La Vie en Rose. Et Fred Mella m'a dit, j'ai entendu cette chanson, je lui ai dit, Edith, ça fera pas un grand succès. Et comme elle était très généreuse, elle a dit à un de ses copains musiciens, écoute, tu prendras les droits pour la musique. Et la chanson a fait le tour du monde, et elle est d'ailleurs encore jouée au Japon, aux États-Unis. Enfin, tous les amis qui voyagent à travers le monde me disent, tiens, j'ai entendu La Vie en Rose.
Piaf sera malade et souffrante toutes les dernières années de sa vie. Elle tombera même dans la dépendance à la morphine tellement elle souffrait. Et elle meurt la veille. En fait, elle est morte la veille de la mort de son ami Cocteau. Hein. Elle n'est pas morte exactement le même jour.
Alors en fait, exactement, elle va mourir. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle a fait sa prière. Ça, Charles Dumont m'a dit, elle s'est mise à genoux jusqu'au bout sur la scène de l'Olympia dans ses derniers récitals. Mais la veille de sa mort, elle se met à genoux et son infirmière lui dit, mais tu pourrais réciter ta prière au lit? Non. Elle dit, aide-moi à me mettre à genoux. Et puis, la dernière phrase qu'elle dit le 9 octobre 63, cher petit Jésus. Et elle s'endormira comme ça. Et sa secrétaire, Daniel Bonnel, déclarera par la suite, jusqu'à son dernier soupir, je peux témoigner de sa foi en Dieu et de son amour infini pour Sainte Thérèse de Lisieux. Et où Piaf écrit la légende, c'est qu'elle avait demandé que sa mort soit annoncée à Paris. Donc elle meurt à côté de Grasse, à Place Cassier, le 10 octobre, à 13h10. Elle rend son dernier souffle. Elle est ramenée de nuit. Alors il a fallu établir un faux acte de décès en date du vendredi 11 octobre à 7h30. Donc là aussi, la vie de Piaf est incroyable puisqu'elle a une mort officielle et une mort officieuse. Et Cocteau la rejoint le 11 octobre, quelques heures après. Enfin, il apprend la mort de Piaf et il sombre. Il meurt.
Piaf, ses obsèques réuniront 400 000 personnes tout de même. Hein.
Ah oui,
c'est dire un peu l'icône qu'elle était. Hein.
Charles Dumont m'a dit, on a vu des tombes cassées. Ils ont été véritablement emportés par la foule puisque son producteur et un autre artiste sont tombés dans la fosse où on devait mettre le cercueil. Enfin, ça a été une bousculade incroyable. Malheureusement, l'église lui refusera les funérailles chrétiennes et Marc Bonnel, son accordéoniste, a dit elle ne méritait pas que l'archevêché lui ferme son sanctuaire. Un tapis pourpre aurait dû traverser le ruisseau d'où elle était venue et ce jour-là la conduire jusqu'au cœur de Notre-Dame. Et je crois que c'est vrai.
Une chose dont nous devons parler avant de terminer, ce sont les phénomènes mystiques auxquels je faisais allusion il y a quelques minutes. Des faits vraiment étranges survenus longtemps après la mort de Piaf, parfois très longtemps après. Lesquels vous semblent les plus troublants? Parce qu'il y en a eu beaucoup. Hein.
Il y a eu ces miracles de fleurs dans une loge à Reims, dans un théâtre à Reims où Piaf était passé. Il y a des fleurs qui sont restées fraîches plusieurs années. Sur la tombe de Piaf aussi, on a vu des fleurs qui sont restées fraîches pendant plusieurs semaines, pendant 2 mois au moins. Et puis, elle a fait 3 prophéties à Ginou Richer, sa secrétaire. 3 prophéties qui se sont réalisées sur la maladie de Ginou, sur un divorce et sur la maladie de son enfant. Et à chaque fois, Piaf a donné la solution et ça s'est solutionné comme Piaf l'avait prévu.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire, malgré sa vie amoureuse très tumultueuse bien sûr, mais il faut rappeler qu'elle avait grandi dans une maison close au milieu de femmes, avec des messieurs qui passaient beaucoup, alors c'est peut-être pour ça aussi que toute sa vie, des hommes ont passé comme ça dans son existence. Est-ce qu'on peut dire que chez Piaf, il y avait quelque chose de l'ordre de la sainteté, en tout cas d'une forte aspiration à la sainteté?
Moi, je pense, pour moi, c'est Marie-Madeleine. Elle est écartelée entre le ciel et la terre, et la chair, on pourrait dire. Elle a eu une chanson qui l'a beaucoup marquée, qui s'appelle « Mea culpa », et qui dit « Que ceux qui n'ont jamais péché me jettent la première pierre, que ceux qui n'ont jamais aimé me refusent une prière ».
La prière qui ne l'a jamais quittée, qui avait une force incroyable chez elle. Impossible de finir cette émission sans écouter une dernière fois Édith Piaf avec cette chanson qui résume assez bien sa vie et sa foi indestructible. Une chanson dont les paroles sont de Michel Vauquer et la musique de Charles Dumont, Mon Dieu. « Mon Dieu, chanté par Édith Piaf, chanson dont la musique a été composée par Charles Dumont, pour terminer cette émission dont l'invité était Pierre Fesquet pour son livre Piaf, un cri vers Dieu, publié aux éditions Salvator et que l'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies. Je vous recommande chaudement la lecture de cet ouvrage aussi passionnant qu'émouvant. Merci infiniment Pierre Fesquet d'avoir été au rendez-vous.
Merci Eric.
Et merci à nos auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce numéro de Vivante Église, animé par Éric Dupri et réalisé par Christophe Aubry. À la semaine prochaine.